السلام عليكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Donc la séance qu'on va avoir chaque mardi pendant le mois de Ramadan, c'est la séance questions-réponses sur le jeûne. Donc, je vais vous expliquer, comme c'est la première séance aujourd'hui, le procédé, Inch'Allah. Qu'en fait, vous avez une plateforme, un lien qui est envoyé sur le compte Telegram de la mosquée, dans lequel vous pouvez inscrire vos questions. Et on pourra aussi éventuellement prendre les questions en direct ici aujourd'hui. Les questions de chaque mardi concerneront le jeûne, As-Siyam. Mais dans chaque mardi, aura un thème bien particulier parce que le jeûne, c'est vaste. Les questions qui vont nous concerner aujourd'hui, c'est les questions qui concernent la détermination du début du Ramadan et de la fin du Ramadan. Grosso modo, sur quoi on se base pour déterminer le début et la fin du Ramadan. Et aussi, tout ce qui concerne l'intention dans le jeûne du mois de Ramadan. La semaine prochaine, on verra le thème des permissions, d'abord ce qui rend le jeûne obligatoire, les conditions qui font que le jeûne devient obligatoire pour chaque personne, les permissions, c'est-à-dire ce qui permet de ne pas jeûner, et aussi, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est ce qui rend le jeûne même interdit. Le jeûne de Ramadan, il peut être interdit dans certains cas et dans certaines situations. Les questions de la semaine prochaine tourneront autour de ça. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à deux thèmes, on a dit. Le premier, c'est la détermination du mois. Et le second, c'est toutes les questions essentielles qui concernent l'intention dans le mois de Ramadan. Donc, on va, sans plus tarder, pour ne pas perdre de temps, commencer par la première question. C'est Mustapha. Donc, quand le jeûne a été prescrit pour la première fois, il faut savoir que le jeûne, en tant que tel, a toujours existé. Il a toujours existé chez tous les prophètes. Tous les prophètes ont eu le jeûne. Et on en a encore les traces dans les religions monothéistes. Chez les juifs, ça existe encore le jeûne. Chez les chrétiens, même s'il a plutôt évolué sous des formes différentes comme le carême ou le fait de manger, de se priver de viande le vendredi, etc. Mais en tous les cas, le jeûne a toujours existé. On en a même des preuves dans le Coran. Sauf que le Coran, d'abord, le Coran, il nous dit, quand il nous parle à nous du jeûne de Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez la foi, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ça veut dire qu'il a existé déjà chez ceux d'avant nous. On sait aussi par des hadiths que lorsque le prophète Sam est arrivé en tant que prophète, même les idolâtres de la Mecque pratiquaient des jeûnes. On a des traces, par exemple, dans l'imam Nawawi, quand il fait son commentaire de l'authentique de Muslim, il parle du jeûne que pratiquaient certains idolâtres qui coïncidaient avec le jour de Ashura. Même s'il le pratiquait différemment, il le voyait différemment. Naam. Les jeûnes qu'il y a eu avant l'arrivée de l'islam, c'était des jeûnes qui pouvaient être aussi différents. C'était pas forcément, le jeûne existait, mais ce n'était pas forcément se priver de boire et de manger. Ça existait, il n'y avait pas que ça. Il y avait par exemple le fait de se priver de parler. ça devrait être remis à l'ordre du jour. Pendant un certain temps, ils arrêtaient de parler pour Allah Azza wa Jal. Par exemple, on a l'exemple avec Maryam. Lorsqu'elle a mis au monde le prophète Isa, alayhi salam, sans qu'aucun homme ne s'approche d'elle, c'était donc un miracle d'Allah Azza wa Jal. Mais il fallait, Allah Azza wa Jal lui a donné l'ordre, parce qu'elle s'était éloignée quand elle a vu qu'elle était enceinte et qu'elle allait mettre au monde un enfant, et elle savait ce que les gens allaient dire à son sujet. Parce que pour les gens, ça aurait été inacceptable, inaudible, qu'elle puisse avoir un enfant sans qu'un homme ne s'approche. Donc, elle s'est éloignée de la ville. Et lorsqu'elle a mis au monde le prophète Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de retourner en ville, avec son nourrisson. Donc les gens allaient se poser des questions. Et elle a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire pour me défendre des accusations qui vont être colportées à mon sujet? Allah Azza wa Jal lui a ordonné de jeûner, le jeûne de la parole. Alors qu'elle avait besoin de ce qu'elle allait dire, Allah l'éprouve par ce jeûne. Si des gens te posent des questions et ils te demandent des explications, contente-toi de leur dire que tu voues un jeûne de la parole auprès d'Allah. Et ça, c'était évidemment l'aubaine pour les maîtres du temple et ceux qui étaient contre sa famille et contre elle, puisqu'ils vont dire, ah, comme par hasard, au moment où tu dois t'expliquer, toi tu dis que tu jeûnes le jeûne de la parole. Ah ben, c'est bien tombé ton jeûne de la parole. Et bien sûr qu'elle voulait se défendre, mais elle était obligée de se soumettre à l'ordre. C'était pour l'éprouver. Non. Mais cet exemple, je le donne pour montrer que le jeûne pouvait exister sous cette forme-là, il a toujours existé. Non. Et la question, c'était quand la première fois dans l'islam, c'est ça? Ou c'est la question qui vient après?
Oui, pour la première fois, tout
simplement. Non. Et en tout cas, et la question suivante, elle dit quoi?
Pour les musulmans, a-t-elle été prescrite tout de suite sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, ou elle a connu des évolutions?
D'accord. Donc, toujours pour continuer sur la première question, et encore un élément qui est important, c'est que les musulmans, eux, à partir de quel moment le jeûne de Ramadan a été obligatoire? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation à l'âge de 40 ans, que pendant les 13 premières années de la révélation, il a vécu à la Mecque. Ensuite, il a fait le hijra vers le Médina à l'âge de 53 ans. Et c'est seulement quand il est arrivé à Médine que le jeûne de Ramadan a été prescrit. Entre la première et la deuxième année de Ramadan. On sait que le premier Ramadan obligatoire, c'est le Ramadan de la deuxième année. On n'a pas la date exacte, c'est peut-être avant que le Ramadan arrive que le verset il a été révélé, mais en tout cas le premier Ramadan obligatoire, c'était le Ramadan de la deuxième année de l'Hégire, qui, pour ceux qui suivent avec nous les cours du dimanche sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond aussi à la bataille de Badr. C'est pendant ce mois-là, le mois de la deuxième année de l'Hégire, à Médine, qu'il y a eu la bataille de Badr, et c'est aussi pendant ce mois-là qui a été la première fois où le jeûne de Ramadan a été obligatoire. Non. Donc la deuxième question, c'était, est-ce que dans l'islam, ça a toujours été sous la même forme, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui? En vérité, non. Il y en a le verset qui parle de la prescription du jeûne de Ramadan, il dit, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana » منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc Allah Azza wa Jal révèle le verset de l'obligation du jeûne, la prescription du jeûne. Il donne la permission pour ceux qui sont malades et en voyage de ne pas jeûner. Et ensuite il précise وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. Et quant à ceux qui ont la capacité de le jeûner, et sous-entendu, mais ne le jeûnent pas, ils doivent payer pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que quelqu'un qui a la capacité de jeûner, il a le droit de ne pas jeûner et de payer pour chaque jour non jeûné? Non. Ce verset concernait la première période de la prescription. Au début, les gens avaient l'option, soit ils jeûnent, soit ils mangent, mais ils payent pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre. C'était le choix. Il y avait une option entre soit on jeûne, soit on paye le repas d'un pauvre pour chaque jour non jeûné. Aïwa. Ensuite, il y a eu une évolution vers quoi? Vers le jeûne est obligatoire pour tout le monde, sauf ceux qui ont la permission, comme les malades et les voyageurs. C'est le verset qui vient juste après, de celui qu'on a cité. « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Et ensuite, après ça, fait Huda l'innas wa bayinat min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum shahra falyasum. Celui donc qui assiste au mois, qu'il jeûne. C'est tout là. Il n'y a plus de. Celui qui vit pendant le mois de Ramadan et qui sait que c'est Ramadan, qu'il jeûne. Il n'y a pas le choix entre jeûner et payer pour chaque jour non jeûné. Ça, c'est l'évolution qui est venue juste après. Sauf qu'Allah Azza wa Jal continue de préciser qu'il y a des permissions. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quant à ceux qui sont en voyage ou qui sont malades, ils peuvent jeûner plus tard, ils peuvent rattraper leur jour. Aïwa. Mais cette deuxième étape n'était pas encore sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde devait jeûner sauf ceux qui ont la permission comme les voyageurs et les malades. Mais pendant la nuit, c'était encore différent que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pendant la nuit, les gens avaient le droit de manger et de boire au moment du coucher du soleil, jusqu'au moment où ils dorment. Pas jusqu'au lever, jusqu'à l'fajr, non, jusqu'au moment où ils dorment. Dès qu'ils s'endorment, à partir de ce moment-là, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils n'ont pas de rapport intime avec leur épouse jusqu'au prochain coucher du soleil. C'est-à-dire quand ils vont se réveiller pour le fajr, ils ne devaient pas manger ni boire. Et selon certaines versions, ils pouvaient manger et boire, mais ils ne devaient pas avoir de rapport intime avec leur épouse, jusqu'au coucher de, prochain coucher du soleil. Non. Et ensuite, le verset d'après, « Uhilla lakum laylata siyam al-rafathu ila nisaikum al-aya » il vient dire quoi ? Il vient dire, à présent, il vous est licite d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Il y en a certains savants disent que les rapports intimes avec les épouses étaient même interdits toute la nuit. Pendant un mois de Ramadan, yani, c'était interdit dans la journée, évidemment, et la nuit. Il n'y avait que le fait de manger et boire qu'on pouvait du coucher du soleil jusqu'au moment de dormir. Et que cette étape, elle est venue dire, les rapports intimes sont autorisés la nuit, et le fait de manger et boire, autorisé aussi toute la nuit, parce que ce n'était autorisé que du maghrib au coucher du soleil. Et c'est la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que sous quelle forme on pratique le jeûne, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de rapport intime avec son épouse pendant la journée. Et quand le coucher du soleil arrive, peu importe que tu dors la nuit et que tu ne dors pas, tu as le droit de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec ton épouse jusqu'à le fajr, jusqu'à l'homme. Non. Wallahu a'lam. Ensuite.
Chaque année, nous entendons que des pays commencent le jeûne du Ramadan ou le terminent à des jours différents. Quelles en sont les causes principales ?
Donc, quelles sont les causes du fait que chaque année, on entend qu'il y a tel pays qui commence tel jour, un autre pays qui va commencer un autre jour. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on a la même chose ? Les pays musulmans ne décrètent pas le début et la fin du jeûne de Ramadan en même temps. Je dirais qu'il y a deux principales raisons. Il y a, à l'origine, la raison, elle est jurisprudentielle. Ça veut dire qu'elle est... C'est une divergence qui est dans l'interprétation qu'on fait des textes, que les savants musulmans ont fait des textes, et ça donne naissance à ces divergences. Et la deuxième raison, c'est que beaucoup d'autorités, beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, utilisent ces divergences pour asseoir leur autorité. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, une affaire politique. Chaque pays a envie d'avoir une certaine autorité, un certain leadership et prouver, démontrer que c'est lui que la plupart des musulmans suivent. Ou alors au contraire, comme il y a des divergences entre des pays au niveau politique, bien, des pays vont décréter qu'on ne gênera pas, on se débrouillera pour ne pas voir la lune en même temps que tel pays. Il ne faut pas se le cacher, ça existe. Mais nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est les divergences... dans le fiqh. Et je pense que c'est la question d'après. Oula, c'est Mustapha.
Pouvez-vous en dire plus sur les raisons de cette divergence avec les savants
musulmans ? Non, donc est-ce qu'on peut en dire plus sur les raisons de cette divergence entre les savants ? La question, elle est simple. Pour comprendre cette divergence, il y a une question. C'est comment détermine-t-on le mois de Ramadan ? Il faut rappeler que le mois de Ramadan, c'est un mois du calendrier égyrien. Et le calendrier égyrien, il est basé sur la lune, et pas sur le soleil comme le calendrier grégorien. Il est basé sur la lune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction de l'évolution de la lune dans le ciel, on détermine le début et la fin du mois, le milieu du mois. Comment on décrète le début du mois ? Eh bien, quand la lune apparaît dans le ciel. Puisque si vous suivez l'évolution de la lune, au tout début d'un mois, on ne voit rien dans le ciel. La nuit, même si le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de lune. Tu vas peut-être voir des étoiles, mais il n'y aura pas de lune. Il n'y a rien. Tu auras beau la chercher, la lune, tu ne la vois pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est là, mais elle ne reflète pas. D'habitude, quand on la voit, quand on voit la lune en pleine lune ou un croissant qui brille, c'est la lumière du soleil qui reflète sur la lune. Et là, la Terre cache le soleil derrière, donc la lune, on ne la voit pas. Et c'est comme ça qu'on détermine le début d'un mois. C'est au moment où la lune va commencer à naître. La nuit où on va voir un tout petit croissant, un tout petit trait, un fin trait qui brille de la lune, ça, c'est le début du mois. Ensuite, le deuxième jour, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce trait commence à grossir un petit peu pour donner la forme d'un croissant. Troisième jour, on voit vraiment un croissant. Le milieu du mois, la lune, elle est pleine. C'est ce qu'on appelle la pleine lune. Et ensuite, à partir du 16e jour du mois, du 17e jour, la lune, elle commence à rétrécir. Rétrécir jusqu'à la fin du mois où on ne voit plus rien dans le ciel. C'est comme ça le mois lunaire. Tafakna ? À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le professeur Hassan disait quoi ? Il disait observer. Parce que c'était le moyen le plus sûr de savoir si la lune, si le mois lunaire avait commencé. Vous allez me dire, c'est vraiment basique ce que tu es en train de raconter. C'est très important pour la suite. Pour comprendre la divergence sur le calcul astronomique, etc., est-ce qu'on doit prendre en compte le calcul astronomique ? Il faut d'abord comprendre ça. Pourquoi le professeur Hassan demandait aux gens d'observer ? Il a dit dans le hadith, « Soumou li ru'yatihi wa aftirou li ru'yatihi » Jeûnez le mois de Ramadan à la vision de la lune, quand vous voyez la lune, et rompez le jeûne à la vision de la lune. Dans une autre version, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوهُ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Si vous voyez la lune, jeûnez, et si vous voyez la lune, rompez le jeûne. Pourquoi il a dit tout ça ? Parce qu'à l'époque, c'était le moyen le plus sûr. On observait le ciel, t'as vu quelque chose ? Non. Et toi ? Non, moi j'ai rien vu. Il n'y a pas encore de lune. Khlas. Demain, c'est pas Ramadan. Demain, c'est le 30e jour du mois de Sha'ban, le mois qui vient avant Ramadan. Le lendemain, et comme il ne peut pas y avoir plus de 30 jours, on n'avait plus besoin de regarder. Parce que même si on ne la voit pas, on sait que c'est obligatoirement le début de Ramadan. Maintenant, il ne peut pas y avoir plus de 30 jours dans Sha'ban. Dans les mois lunaires, il y a soit 29, soit 30 jours. Pas moins, il n'y en a pas 28, il n'y en a pas 31. Alors que les calendriers grégoriens, il peut y avoir 28, comme dans le mois février. Il peut y en avoir 29, comme le mois février, l'année bissextile, et il peut y avoir 30 et 31. Pendant un mois lunaire, il peut y avoir que 30 ou 31. Par contre, si le soir du 29e jour de Sha'ban ou du 29e jour de Ramadan, pour décréter la fin du mois de Ramadan, on observe le ciel et on voit qu'il y a ce trait fin, à ce moment, on décrète que c'est le début du mois. Regardez, c'est aussi simple que ça. Mais même si aussi on dit que c'est aussi simple que ça, c'est compliqué parce que ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour déterminer le mois, on l'a expliqué, c'est de dire si je ne la vois pas, eh bien je complète 30 jours. Quand je suis dans Sha'ban, pour déterminer le début du mois de Ramadan, soit je vois la lune et je dis demain c'est Ramadan, si je ne vois pas la lune, on dit on termine 30 jours de Sha'ban et ensuite on commence à jeûner. Pour déterminer la fin de Ramadan, c'est la même chose. Le soir du 29e jour de Ramadan, on observe le ciel. Si on voit la lune, on considère que le lendemain, ce n'est pas le 30e jour de Ramadan, mais c'est le premier jour de Shawwal et le jour de Eid al-Fitr. Et si on ne voit pas la lune, on considère que le lendemain, c'est 30 jours et que ce sera seulement le jour d'après qu'il y aura le premier jour de Shawwal et donc le jour de Eid al-Fitr. Quand on a dit ça, on a dit l'essentiel des raisons ou sur quoi on doit se baser pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan. Sauf qu'à notre époque, il y a une notion qu'on doit prendre en compte, en tout cas qui est venue se rajouter, et que certains disent qu'il faut la prendre en compte et d'autres disent qu'il ne faut pas la prendre en compte. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la science de l'astronomie ou du calcul astronomique. Aujourd'hui, la science, elle arrive à un tel point de progrès et d'évolution qu'on est capable de dire 100 ans à l'avance, quand est-ce que la Lune elle va naître et où exactement Et de quelle heure elle sera visible? On est capable de le dire. Avant, on ne savait pas quand elle va naître. On regardait, on attendait de voir. Est-ce qu'elle est née, elle n'est pas encore née? Allahu a'lam. C'est pour ça qu'on observait. Aujourd'hui, sans observer, la science, elle te dit avec précision, à la virgule près, elle naît tel jour, elle naît à telle heure, et elle sera visible dans tel endroit ou dans tel pays, de telle heure à telle heure. Et le problème, c'est que les savants d'aujourd'hui, ils divergent entre eux. Entre ceux qui disent, cette science, on ne doit pas la prendre en compte, et il faut continuer d'attendre de l'avoir vue à l'œil nu. Et il y en a qui disent, subhanallah, avant, regarder à l'œil nu, c'était le moyen le plus sûr de déterminer le début et la fin du mois. Aujourd'hui, on a autre chose qui nous permet de déterminer avec plus de certitude, c'est la science. Donc évidemment qu'il faut la prendre en compte. Et il y en a, comme l'imam Subki ou l'imam Al-Qaradawi, qui nous disent qu'il faut prendre la science au minimum pour infirmer et pour nier la vision ou le témoignage de ceux qui disent qu'ils l'ont vu, alors qu'on sait pertinemment que ce jour-là, elle n'était pas visible. Alors, excusez-moi, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais par exemple, cette année, beaucoup de pays l'ont annoncé, alors qu'on sait, la science dit, elle n'était pas visible chez ceux qui l'ont annoncé. La plupart des pays qui l'ont annoncé, elle n'était pas visible chez eux. Vous allez me dire, pourquoi on a jeûné avec eux ? Ça, c'est une autre histoire. On va y répondre. Peut-être qu'elle va venir tout à l'heure, la question. Mais en tout cas, on sait avec certitude qu'ils ne l'ont pas vu. Mais alors, est-ce que les gens ils sont de mauvaise foi, ceux qui disent qu'ils l'ont vu ? Alors, je vous ai dit, il y a d'abord une affaire politique. Ça, on ne sait pas qui gère. Il faut prendre ça en compte. Ensuite, il y a probablement vraiment des gens qui, parce qu'il y a des comités qui sont mis en place, etc. Les gens, ils se rassemblent, ils regardent et ensuite, ils appellent. Il faut savoir que le premier soir, pour la voir, c'est vraiment quelque chose de très fin, qui brille et qui brille quelques minutes au moment où le soleil se couche, donc quand il ne fait pas encore vraiment nuit. Donc on peut penser l'avoir vu alors que ce n'était pas vraiment la lune. Donc c'est possible que beaucoup de gens pensent l'avoir vu, qu'ils pensent être de bonne foi, sauf que maintenant on a cette science. Donc pourquoi on ne prend pas cette science pour dire, écoutez, vous dites l'avoir vu de telle heure, à tel endroit, on sait qu'à cet endroit-là, elle n'était pas visible. Ou peut-être elle n'était même pas encore née. Donc laissez-nous tranquilles. Normalement, il faut prendre cette science en compte, au moins pour ça. Ensuite, pour comprendre toutes les divergences, il y a autre chose qu'il faut rajouter. C'est que même en admettant qu'il faut prendre uniquement en compte la vision, si j'ai un homme qui vient et qui dit « moi je l'ai vu », est-ce que je me contente du témoignage d'un homme ? Si c'est un enfant qui me dit ça, si c'est un adolescent, si c'est un homme, si c'est une femme, sur toutes ces questions, il y a la divergence entre les savants. Alors, il faut y aller après pour se démêler de tout ça. Est-ce qu'un homme, ça suffit ? Est-ce que si c'est une femme, c'est bon, on prend en compte ? Est-ce que si qu'il est encore jeune, on prend en compte ? Est-ce qu'il faut absolument qu'il ait atteint la puberté, la maturité pour qu'on prenne en compte son témoignage ? La majorité des savants disent le témoignage d'un homme suffit. D'un homme pubère, adulte, qui a atteint sa maturité, suffit. Les malikites disent qu'il faut qu'il y ait au minimum deux hommes qui viennent et qui témoignent de l'avoir vu. Les hanafites disent si le ciel n'est pas dégagé, qu'il y a des nuages, etc., s'il n'y a qu'un homme ou deux qui l'ont vu, et que c'est des gens qui ont atteint la puberté, la maturité, etc., qui sont intègres, on prend en compte leur témoignage. Mais si le ciel est dégagé, un homme ou deux hommes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas possible que le ciel est dégagé, il n'y en a qu'un qui va le voir. Il faut qu'il y ait un grand groupe de personnes qui aient pu le voir. Donc vous voyez, chacun sa logique et sa cohérence dans les écoles de pensée. Et donc en fonction de la vie que tu vas prendre, ou que le savant va prendre, ou que le pays va prendre, ça va donner lieu à une conclusion. Et ensuite, le mois va être décrété ou non. Ensuite, tout à l'heure, on a dit le deuxième moyen de déterminer le mois après la vision, c'est quoi ? C'est de compléter 30 jours. Sur quoi se basent les savants qui disent ça ? Sur le hadith qui dit « فَإِنْ رُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30 » Si quelque chose vous empêche de voir la lune, complétez, terminez 30 jours. فَأَكْمِلُوا 30 » C'est clair ? Sauf qu'il y a d'autres hadiths qui nous disent « فإن غم عليكم فاقدروا له. Et si il y a quelque chose qui vous empêche de voir la lune comme des nuages, par exemple, فاقدروا له. Alors, interprétez. قدروا له, ça peut vouloir dire interprétez-le. Interprétez la lune. Ça peut vouloir dire calculer la lune. Ou ça peut vouloir dire considérer la lune. Et en fonction de l'explication que tu donnes à فاقدروا له, tu vas avoir une conclusion différente. Il y en a, ils vont dire, bah, ça veut dire compléter 30 jours, فاقدروا له. Il y en a, ils vont dire فاقدروا, ça veut dire calculer, donc il faut prendre en compte le calcul astronomique. Et il y en a, ils vont dire considérer la lune, et ça c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui l'a dit, il dit ça veut dire considérer qu'elle est présente, parce qu'il y a les nuages qui vous ont empêché de la voir. Hein? Non. Donc Ahmad ibn Hanbal lui considère que si le ciel n'est pas dégagé, il faut considérer qu'on a, c'est bon, c'est le, la lune elle a été vue, parce que c'est à cause des nuages qu'on ne l'a pas vue. Par contre, si le ciel y est dégagé et qu'on ne l'a pas vu, là, on rajoutera 30 jours. Aïe, c'est compliqué tout ça, Oula. Naam, naam. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante ? Aïe, en prenant en compte tous ces éléments, quelle avis il faut prendre en compte ? Quelle que soit l'avis, d'abord, il faut être un savant pour prendre en compte un avis. Parce qu'il faut que vraiment tu vas dans les arguments des uns et des autres et que tu te fasses ton idée. Et ton opinion. Mais si on devait dire quelque chose, d'abord, malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a la politique qui s'est mêlée à ça et nous, ça nous dépasse. Donc, on aura beau donner notre avis, qu'est-ce qui va nous écouter ? Le roi de l'Arabie Saoudite ou le roi du Maroc ou le président de l'Algérie ? Personne ne va nous écouter, nous. Non. Donc, en réalité, l'avis qu'il faut prendre en compte, c'est le hadith du prophète Hassan qui dit As-sawm yawma yasoum an-nas wal fitr yawma yaftir an-nas. Et ça répond à la question de tout à l'heure où je disais, mais si on est sûr qu'aucun pays n'a pu le voir, pourquoi nous on a commencé à jeûner ? On sait que ce n'est pas vrai, ils n'ont pas pu le voir, la science elle le dit. Pourquoi on a commencé quand même à jeûner ? Parce que le hadith du prophète Hassan il dit As-sawm yawma yasoum an-nas wal fitr yawma yaftir an-nas. Le jeûne, ou sous-entendu le véritable jeûne, c'est le jour où les gens jeûne, c'est-à-dire le jour où les gens autour de toi jeûnent. Et le jour où on rompt le jeûne, où on fait l'aïd, c'est le jour où les gens autour de toi ils font l'aïd. Et admettons, toi tu vas sur ton toit ou dans ton jardin et tu te mets à observer le ciel. Et tu vois la lune, tu l'as vue. Sur cette question aussi, les savants ils ont divergé. Si tu es tout seul à l'avoir vue et que ton pays où tu vis, ils ne suivent pas ton avis. Mais toi tu es sûr et certain tu l'as vue. Est-ce que toi, tu dois quand même jeûner et faire différemment des autres ? Ou tu dois faire quand même comme les autres alors que toi, tu es persuadé de l'avoir vu ? Ou ce qu'il a vu ? Eh bien, regarde pas comme ça, tu es tranquille. Observe pas. Léana, tu sais qu'il y a un gros risque et c'est le cas pour nous. On voit, il y a des associations qui sont créées en France d'observation du ciel. Inch'Allah, c'est bien, c'est une bonne initiative. Mais au final, pourquoi ? Ils vont nous dire, on l'a vu, d'accord. Mais on ne jeûne quand même pas demain parce que le pays dans lequel on vit, ils ont décrété qu'on ne jeûnait pas. Donc ça va juste mettre encore plus de troubles aux gens. On a des gens sérieux qui ont même du matériel, des télescopes, des jumelles, et ils disent, ils certifient l'avoir vu. Et pourtant, on ne jeûne pas. Tu vas juste mettre le trouble aux gens. Donc arrête de regarder parce que cette chose, malheureusement, elle nous dépasse. Si on avait l'autorité, alors c'est nous qui décréterions à Fouane le début et la fin du mois, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas cette autorité-là. Non. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On jeûne en même temps que tout le monde et on rompt le jeûne en même temps que tout le monde. Vous allez me dire, et je pense que c'est la question qui vient d'après. Après, qu'est-ce qu'elle dit la question après ?
Si on est amené à vivre une divergence entre pays différents sur le début et la fin du Ramadan, si la divergence entre les régions, mosquées ou même comme c'est déjà arrivé par le passé entre les membres d'une même famille, comment les musulmans?
Alors, si on se retrouve dans une situation dans laquelle on a plusieurs pays qui décrètent que c'est le début de Ramadan et d'autres qui disent non, c'est pas demain, comment on fait ? Ou si c'est entre régions, ou entre mosquées même, c'est déjà arrivé par les années passées, ou même entre les membres d'une seule et même famille, ça c'est pire. La pire des situations, et on l'a déjà vécu il y a quelques années, ce serait que dans une même famille, il y en a qui disent moi je suis telle mosquée ou telle avis, donc on jeûne demain, et le beau-fils ou l'épouse même ou les parents ou les frères ou Et ils disent, non, moi je suis de l'autre avis. Alors, c'est plus facile quand les divergences, elles sont à l'échelle des pays. Parce que là, on dira tout simplement, suis le pays dans lequel tu vis. C'est aberrant de dire, je vais suivre le Maroc ou l'Algérie, alors que je vis en France. Regarde en France ce que les gens vont faire. Pour le foot, tu peux suivre le Maroc ou l'Algérie, il n'y a pas de problème. Mais pour le début et la fin de Ramadan, et encore, ça se discute. Mais pour le début de Ramadan et la fin de Ramadan, c'est pas comme le foot. Suis le pays dans lequel tu es. Il faut supporter la France pour le début et la fin de Ramadan. Non. Donc il faut regarder le pays. Et donc l'affaire, elle est réglée. Léna, comme on a dit tout à l'heure, le hadith est clair. As-sawm yawma yasoum an-nas wal fitr yawma yaftir an-nas. Le jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent, c'est-à-dire les gens autour de toi. Même si tu es persuadé que c'est l'autre pays qui a des milliers de kilomètres qui a raison, tu vas faire quoi? Ah, moi, j'ai raison tout seul. Ouais, fais l'aide tout seul et jeûne tout seul. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que le professeur Hassan dit le véritable jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent et le jour où les gens rompent le jeûne. Non. Si la divergence, elle est entre les régions, suite à région, si elle est entre les mosquées, suite à mosquée, qu'est-ce que ta mosquée décrète? Par contre, si c'est au sein d'une même famille, là, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais te dire suivre ta famille, ben, c'est la divergence, elle est dans ta famille. Il faut regarder et s'approcher de ce qui cause le moins de désagréments, à la fois à toi, à la fois à ta famille et à la fois à la communauté. Donc, regardez ce qu'elle décrète la mosquée à laquelle adhère ta famille. Parce que logiquement, cette famille devrait suivre sa mosquée. Et la mosquée, pourquoi elle a pris telle ou telle décision? Est-ce que toutes les autres mosquées autour y prennent la même décision? Ou alors cette famille, si elle décide de contredire cette mosquée dans laquelle, à laquelle elle adhère, c'est parce que cette mosquée toute seule, elle a pris une décision qui est opposée aux autres. Donc il faut prendre tout ça en compte, peser le pour et le contre, et essayer de s'approcher le plus possible de la majorité des gens autour de nous. Et donc il faut prendre en compte la famille, mais aussi la mosquée, mais aussi toutes les mosquées autour et le pays dans lequel on vit. Wallahu a'lam. La question d'après, elle concerne toujours la détermination du mois. Alors, avant de passer à l'adoration et l'intention, il y a une chose qui est importante qu'on ne doit pas oublier, c'est est-ce que ça, c'est normal? On aurait pu poser cette question. Est-ce que c'est normal de diverger comme ça? Il y a un récit qui est authentique, dans l'authentique de Muslim, qui est important à connaître et à comprendre, qui est aussi l'origine de divergence. C'est le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel on nous dit « Umm al-Fadl », l'épouse de l'Abbas, il a envoyé Afwan, son servant qui s'appelait Quraib. Eux, ils vivaient à Médine, à Mecca, Afwan. Et elle a envoyé Quraib au Shem. Shem, c'est la Syrie actuelle. Et il est arrivé là-bas, le mois de Ramadan a débuté pendant qu'il était au Shem. Quand il est revenu, Abdullah ibn Abbas, il a commencé à lui poser des questions sur son voyage. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit « Quand est-ce que vous avez débuté le jour du jeûne ?» Il a dit « Bah là-bas, la lune, elle a été observée la veille, la nuit qui précède le vendredi. » Donc on a commencé à jeûner le vendredi là-bas. Abdullah ibn Abbas était étonné. « Vous avez jeûné le vendredi ? Pour vous, le premier jour du jeûne, c'était le vendredi ?» Oui. Les gens, ils ont vraiment vu la lune. Et Quraib répond, oui, moi, je l'ai vu. C'est pas juste les gens, moi, je l'ai vu. Et les gens l'ont vu là-bas, tout le monde l'a vu. Et Muawiyah, le calife Hushaym, il a décrété que c'était donc, évidemment, le premier jour de Ramadan, vendredi. Ibn Abbas lui répond, en ce qui nous concerne, on ne l'a pas vu la nuit qui précède le vendredi. On ne l'a vu que la nuit qui précède le samedi. Donc pour nous, le premier jour, c'était samedi. Et Quraib va lui demander « Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah ?» Ben maintenant que tu sais que Muawiyah, il l'a vu, et qu'on l'a tous vu là-bas, il y a plein de témoins, tu ne vas pas, entre guillemets, corriger ou prendre en compte cette vision? Il va lui dire « La, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Non, c'est ainsi que nous a ordonné de faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est ainsi que le professeur enseigne. D'abord, il faut d'abord voir ici que pour ce compagnon, et pas n'importe lequel, Ibn Abbas, il n'y avait pas de mal à ce que des gens, dans des contrées différentes et lointaines, ils jeûnent différemment. Parce qu'eux, ils l'ont vu, nous, on ne l'a pas encore vu. Et en plus, si on rajoute à ça, à l'époque, les moyens de communication, il n'y avait pas le téléphone pour tout de suite dire on l'a vu. Peut-être que Ibn Abbas aurait dit quelque chose de différent si on avait pu lui communiquer tout de suite. Ce jour-là, ici, on l'a vu. Mais ce n'était pas le cas. Et ici, donc, la parole d'Ibn Abbas, quand il dit « c'est ainsi que le professeur Hassan nous a ordonné de faire », ça concerne quoi ? Est-ce qu'il est en train de dire « le professeur Hassan nous a ordonné que chacun suive la vision de son pays » ou ça veut dire autre chose ? La majorité des savants disent « ça veut dire autre chose ». Pourquoi ? Parce que quand Ibn Abbas il dit « c'est ainsi que nous a ordonné le professeur Hassan », on cherche dans les hadiths, tous les hadiths qui concernent cette question, qu'est-ce que le professeur Hassan m'a dit ? Et on ne trouve pas cet ordre. On ne trouve pas un ordre clair où le professeur Hassan dit que chacun suive sa vision. Ne prenez pas en compte la vision des autres. Si on avait un hadith qui disait ça, on aurait dit Ibn Abbas, il fait référence à ce hadith. Par contre, juste avant, qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas ? Il explique à Quraib, il dit, nous, on l'a vu. La nuit, on ne l'a pas vu la nuit du vendredi, donc on a complété 30 jours. Et donc, on va continuer là pendant ce mois à jeûner. Et lors de notre 29e jour à nous, on va se mettre à observer. Si on la voit, on décrétera la fin du mois. Si on ne la voit pas, on complétera 30 jours. Et sur ça, on a des hadiths qui disent « jeûnez si vous la voyez et interrompez le jeûne quand vous la voyez la lune. Et si il y a quelque chose qui vous empêche de la voir, complétez 30 jours. » Donc quand Ibn Abbas dit « c'est ainsi que nous a ordonné de faire le professeur sallam », il ne fait pas référence à chacun suit ce qu'il veut, mais il fait référence à ça. Soit vous la voyez, soit vous complétez 30 jours. Du coup, ça reste ce qu'on appelle « ijtihad au sahabi », la réflexion d'un sahabi, d'un compagnon. C'est lui qui considère que, donc, puisqu'on doit attendre de l'avoir vu ou de compléter 30 jours, ça implique que peut-être dans tel pays, ils vont suivre une vision et dans un autre pays, ils vont jeûner différemment. C'est son interprétation à lui. Mais tous les compagnons et tous les savants qui vont suivre ne sont pas forcément d'accord avec ça. C'est ce qui va créer des écoles de pensée différentes. Et c'est ce qui va créer une divergence dans la fameuse question « إِذَا رُؤِيَ فِي بَلَدٍ فَهَلْ يَزْدُزَمُ الصَّوْمُ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ أَمْ لَا ?» Si on voit la lune dans un pays, est-ce que tous les musulmans du monde doivent suivre ou pas ? Les savants, ils ont divergé sur cette question. Si l'Arabie saoudite, elle décrète qu'ils l'ont vu, est-ce que tout le monde doit suivre ? Et on est obligé de suivre ou pas ? Si c'est le Maroc, si c'est l'Algérie, si c'est la Tunisie, si. Il y a des savants, ils disent, chaque pays, sa vision. Chaque pays doit attendre que son pays, il décrète la vision. C'est la vie des Malikis. Il y a des savants qui disent, chaque pays, sa vision, ou chaque région, sa vision, parce que quand on traduit par pays, en arabe, on dit balad. Le balad, en arabe, ça peut vouloir dire une ville, ça peut vouloir dire une région, ça peut vouloir dire un pays. Il y a des savants qui disent chaque pays sa vision, sauf s'il y a une autorité qui gouverne sur toutes ces régions et sur tous ces pays, comme un calife par exemple, comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais si on était dans un cas où il y avait un calife, à ce moment-là, ce n'est pas chaque pays sa vision, c'est le calife qui décrète quand est-ce qu'on jeûne et quand est-ce qu'on arrête le jeûne. Et il y a des savants qui disent on doit prendre en compte la distance. La distance. Ah oui, c'est quoi la distance ? Ça veut dire, quand on est proche, nous, on ne l'a pas vu ici, mais à Lille, ils nous disent qu'ils l'ont vu. Eh bien, on va suivre Lille, même si on ne l'a pas vu ici, parce que Lille, c'est à côté. Donc, c'est juste que nous, il y a quelque chose qui nous empêchait de la voir, mais Lille et Aluin, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'à partir de quel moment on considère qu'on est loin ? Est-ce que Valenciennes, ça fait trop loin ou pas ? Certains vont dire, ouais, ça commence à faire loin. D'autres vont dire, non, si Valenciennes, ils l'ont vu, nous, on aurait pu la voir, donc on les suit. Il y en a, ils vont dire, par contre, Cambrai, Paris, non, on peut aller jusqu'à Paris. D'autres, ils vont dire, Orléans, c'est le même pays. Marseille, ça fait très loin, pourtant, on est dans le même pays. Et Bruxelles, c'est à notre porte, et pourtant, c'est un autre pays. Donc, c'est compliqué. Comment on fait pour déterminer à quel moment on est près, on est loin ? Certains, ils vont dire, c'est les provinces, les cantons qui sont coupés par les autorités politiques. Mais ça ne veut pas trop dire grand-chose. Il y en a ici aussi, en fonction des cantons ou des provinces. Il y a des provinces qui vont être toutes petites, il y a des provinces qui vont être grandes. Donc, C'est difficile de se baser sur ça. Il y a des savants qui disent on doit prendre en compte masafatu qasri as-salat lis-safar. La distance qu'il faut pour qu'on puisse avoir la permission d'écourter et de rassembler les prières. C'est à partir de ce moment-là, quand on est dans une distance où on considère qu'on est en voyage et qu'on peut écourter les prières, ben c'est une distance qui est assez longue pour dire qu'on est en voyage, donc ce sera la distance où on va dire à partir de ce moment-là, on doit avoir notre vision à nous, on ne va pas suivre la vision de ceux d'où on est parti. Il y en a, ils vont dire, l'endroit où l'information elle peut arriver avant la tombée de la, avant le lever du soleil, parce qu'il faut, pour pouvoir débuter le Ramadan, que je la prenne pendant la nuit. Le Ramadan, il commence à l'aube. Et à l'époque, on était sur des montures, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Donc il y a des savants, ils ont dit, si l'information de Ramadan, elle peut arriver avant le lever du soleil, on prend en compte ça. Sinon, si elle n'arrive pas, on considère que chaque pays, dès qu'on n'arrive plus, c'est leur vision à eux qu'ils doivent prendre en compte. Sauf que là, on va dire quoi ? On va dire, ben nous, maintenant, il y a Internet, il y a les téléphones. On la voit ici, on peut informer de l'autre côté de la planète, en Chine, qu'on l'a vu. Et donc, comment on fait ? D'où vous comprenez la complication, Naam ? En tous les cas, encore une fois, c'est une chose qui nous dépasse, parce que c'est pas, l'autorité, elle ne revient pas. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est de faire comme les gens autour de nous font. Wallahu a'lam. Non. Comme la question le précise, toutes les intentions sont pour les actes d'adoration sont importantes et elles sont même obligatoires. Qu'en est-il du statut de l'intention pour le mois de Ramadan ? De la même manière, comme pour toutes les adorations, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tous les actes ne valent que par leur intention et chaque personne récoltera le fruit de son intention. Donc pour que ton Ramadan y soit valable, il faut que tu aies eu l'intention. Si tu jeûnes sans savoir que tu jeûnes, sans prendre conscience que tu es en train de jeûner le mois de Ramadan, ton jeûne n'a pas de validité, n'a pas de sens. Non. La question d'après, Sim Mustafa ?
Y a-t-il un moment où il faut avoir l'intention ?
Y a-t-il un moment où il faut avoir l'intention ? Ça, c'est important. Il y en a, la majorité des savants s'accordent à dire que pour que le jeûne de Ramadan y soit valable, ton intention, tu dois absolument l'avoir pendant la nuit, c'est-à-dire avant le Fajr. Quand on a commencé le jour du jeûne, il faut absolument commencer, il faut avoir l'intention avant le Fajr. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, il y a des savants qui disent tant que l'information de Ramadan elle peut arriver avant le lever du soleil, c'est bon. Mais il faut que les gens le sachent pour savoir qu'ils vont jeûner pendant la nuit, avant le Fajr. Au dernier moment de l'intention, c'est au moment de le Fajr. Donc la majorité des savants considère ça, à tel point qu'il y a des hadiths dans des versions différentes qui disent « Man lam yubayyit an-niyya qabla tulu' al-fajr fala sawm lahu ou fala siyam lahu. » Celui qui n'a pas l'intention de nuit avant le lever de l'aube, son jeûne n'est pas valide. Son jeûne est caduque. C'est pas un hadith qui est dans le Bukhari Muslim, mais c'est un hadith qui est rapporté par plusieurs rapporteurs et qui a été authentifié par plusieurs savants. Donc, il y a à prendre en compte. Et c'est pour ça que la majorité des savants disent qu'il faut absolument avoir l'intention pendant la nuit.
Faut-il renouveler cette intention ou la première nuit pour le début du Ramadan, c'est suffisant ?
Est-ce que cette intention, la première nuit pour tout Ramadan, c'est suffisant ? Ou alors chaque nuit, il faut absolument que je me rappelle, attention, hein, je vais jeûner aujourd'hui. Et il faut que je renouvelle cette intention chaque nuit. Les savants ont divergé sur cette question. Certains ils disent qu'il faut la renouveler chaque nuit. Et d'autres, comme les malikites, ils disent que la première nuit, c'est suffisant. Et c'est cet avis qui est le plus convaincant et le plus probable. Quand la première nuit, tu as eu l'intention, tu sais que voilà, tu vas rentrer dans le mois de Ramadan, khlas, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin à chaque fois de t'arrêter chaque nuit. Attends, pourquoi je me suis réveillé là ? Pourquoi même si j'ai un œil ouvert et un œil fermé, qu'est-ce qui se passe là ? Parce que je suis en train d'émerger. Ah ouais, c'est vrai, Ramadan 1443-2022, attention, aujourd'hui. Non, tu n'as pas besoin à chaque fois de renouveler ton intention. La première nuit, c'est suffisant, selon les malakites, et c'est l'avis, Wallahu a'lam, le plus probable. Non. Sauf dans un cas de figure. Dans un cas de figure où on arrête de jeûner pendant un moment, pendant Ramadan, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, les femmes qui arrêtent de jeûner parce qu'elles sont en état de menstruer. Elles ont commencé le jeûne, donc elles ont eu l'intention la première nuit. Elles vont jeûner quelques jours, ensuite elles sont en état de menstruer. Pendant plusieurs jours, elles vont pas jeûner, pendant toute la période de menstruer. Quelqu'un qui va tomber malade, il doit prendre des médicaments, ou il ne peut plus jeûner pendant cette période-là, ou il va voyager, il prend la permission de ne pas jeûner. Quand il va reprendre le jeûne, ou la femme, quand elle va reprendre son jeûne, cette personne doit renouveler son intention au moment où ils vont reprendre le jeûne, après la permission qu'ils ont eue de ne pas jeûner pendant un bref moment pendant Ramadan. Wallahu a'lam. Naam. Tu l'as dit, on m'a répondu.
Si une personne apprend que c'est le Ramadan qu'en milieu de journée, que doit-elle faire ?
Si une personne apprend que c'est Ramadan, mais il l'apprend qu'en milieu de journée, ça peut arriver ça. Soit parce qu'au début on avait décrété qu'il n'y avait pas Ramadan, et finalement on va suivre d'autres pays qui vont dire que finalement il l'a. Et donc nous, l'information, elle nous arrive qu'en milieu de journée. Ou quelqu'un qui travaille, et que plus de réseau, plus de batterie, pas de chargeur, je ne sais pas. Il est dans un coin, il est peut-être chauffeur de camion, peu importe, il peut se retrouver dans une situation, il fait tout pour avoir l'information, il ne l'a pas. Et les dernières infos qu'il avait, c'était plus ou moins que probablement ce n'était pas Ramadan. Et finalement, quand enfin il arrive à allumer son portable ou alors à arriver chez lui, on lui dit, si, c'est Ramadan. On l'apprend en plein milieu de journée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À ce moment-là, il faut dire stop à la nourriture et à la boisson, déjà. Même si tu avais déjà bu et mangé, parce que tu pensais que ce n'était pas Ramadan, par respect pour le jour de Ramadan, parce que tu viens d'apprendre que c'est Ramadan, t'arrêtes de manger et de boire. Ça, c'est la principale chose qu'il faut faire. Non. Ensuite, la question d'après.
Justement, dans le cas où cette personne qui n'apprend l'obligation du jeûne qu'en milieu de journée et qui n'avait pas mangé depuis le matin, il devra quand rattraper
La personne qui n'apprend le jour que c'est Ramadan qu'en milieu de journée, et lui, il n'avait pas mangé depuis le matin, ni bu. Est-ce qu'il devra quand même rattraper ce jour ou pas ? Alors déjà, évidemment, posons-nous la question de celui qui avait mangé. Pour lui, c'est pas Ramadan, il mange, il boit, etc. Et tout d'un coup, on lui dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est Ramadan aujourd'hui. C'est Ramadan. Donc à partir de ce moment-là, il arrête de manger, il arrête de boire. Il apprend l'information de Ramadan en milieu de journée. Et lui, il a mangé, il a bu. Est-ce qu'il doit rattraper ? Par logique, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, il doit rattraper. Pourquoi ? Parce qu'il a mangé et bu. Mais il y a quand même certains savants, je donne l'avis, comme celui d'Ibn Taymiyyah, qui disent, même s'il a mangé et bu, il ne doit pas le rattraper, lui. Il n'a pas obligation de rattraper. Ibn Taymiyyah, ce n'est pas n'importe quel savant, c'est un grand savant, on l'appelait Cheikh l'Islam. Il disait, il ne doit pas rattraper. Pourquoi ? Il dit, parce que lui, il ne l'a pas fait exprès. Et il ne l'a pas fait par négligence. Pour lui, ce n'était pas le début. Pour lui, on était dans le mois de Sha'ban. Pour lui, c'était halal de manger. Au moment où il l'apprend, il arrête de manger, donc il n'a rien fait de mal. Il a fait ce qu'il fallait. Donc il n'a rien à rattraper. Mais la majorité des savants disent non, il doit quand même le rattraper. Il a mangé et bu pendant Ramadan. Mais ce qui nous intéresse, c'est celui qui n'a pas bu ni mangé depuis le matin. C'est ça qui nous est posé dans la question. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Lui, est-ce qu'il doit rattraper ou pas ? On va dire, il était dans Ramadan, et alhamdoulilah, il n'a pas bu, il n'a pas mangé de la journée. Donc il a vraiment jeûné. Il y a des savants qui disent qu'il ne doit pas rattraper parce qu'il a vraiment jeûné. Il y a des savants qui disent qu'il doit rattraper. Et l'avis le plus rassurant, à ne pas confondre avec l'avis le plus convaincant. Quelquefois, il y a des avis qui vont nous convaincre par la preuve et des arguments, mais qui vont moins nous rassurer. Et ici, en tout cas, c'est le cas. L'avis le plus rassurant, c'est de dire qu'il le rattrape quand même. Pourquoi ? Parce qu'on doit prendre en compte le hadith qui dit celui qui n'a pas eu l'intention de nuit avant le lever de l'aube, son jeûne est caduque. Et lui, il n'a pas pu avoir l'intention pendant la nuit, puisque pour lui, le jeûne ne commençait pas. Donc même s'il n'a pas mangé ni bu de la journée, il n'a pas eu l'intention au bon moment. Donc on lui dit, c'est mieux pour toi de rattraper ce jour-là après. Wallahu a'lam. On a vu que la plupart des questions qui ont été posées concernent des thèmes qu'on va aborder la semaine prochaine ou les semaines d'après. Donc ces questions-là elles vont être vues la semaine prochaine ou la semaine d'après, sauf s'il y a des questions plus globales qui ne vont pas être vues dans les thèmes.
Il y a des questions vraiment globales. Il y en a une qui peut rester ici dans ce thème-là, qui est peut-on suivre le deuxième degré pour les jeunes, on peut parler des jeunes, il vaut mieux arrêter de manger du 15e ou 16e ou 18e.
Alors, الحقيقة ici c'est un sujet extrêmement technique. L'histoire du 12e degré, 15e degré, 18e degré. Pour ceux que ça ne parle pas, ils ne voient pas de quoi il s'agit de comment on décrète les horaires de prière. C'est des calculs astronomiques qu'on fait. On se base sur le crépuscule pour déterminer le lever, le fajr, le coucher du soleil et l'isha. On se base sur ce qu'on appelle al-shafaq ou le crépuscule. Mais comme il est très difficilement déterminable à l'œil nu, dans les pays dans lesquels on vit, au-dessus du 45e parallèle, quand on regarde une carte, c'est-à-dire au-dessus d'Orléans, au-dessus de Bordeaux, à l'œil nu, c'est très difficilement visible, cette notion qui va nous permettre de déterminer les horaires de prière de la journée, et surtout le fajr et le coucher du soleil, et surtout l'isha aussi. Eh bien, on prend en compte des calculs. Mais en fonction du calcul qu'on va prendre, on va parler de 12e degré ou de 15e degré ou de 18e degré. Il y en a qui prennent en compte ce qu'on appelle le crépuscule civil. Il y en a qui prennent en compte le crépuscule nautique. Il y en a qui prennent en compte le crépuscule astronomique. Et c'est ce qui donne ce qu'on entend le 12e, 15e, 18e degré. Et vous avez même certains savants qui prennent aucun de ces trois-là et qui disent qu'il faut être entre les deux. Entre le 12 et le 15. Il y en a qui disent non, il faut être au-dessus du 15, mais en dessous du 18. C'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que pour pouvoir répondre à cette question, il faut pouvoir avoir la compétence dans deux domaines. Le domaine de l'fiqh, fiqh mawaqit salah, le fiqh dans les horaires de prière. Et le deuxième domaine, c'est l'astronomie. Quand je vous dis 12e, 15e, 18e degré, il faut que tu saches de quoi je te parle et que tu sois un spécialiste de ça. Quand je te parle de crépuscule civil, nautique, astronomique, il faut que tu saches de quoi je parle. Et en fonction de quoi on le détermine. Et en ce qui me concerne, en tout cas moi, je ne sais pas vous, moi je ne gère pas du tout cette compétence-là, ce n'est pas du tout ma compétence. Donc je ne vais pas me permettre de dire quelque chose qui pourrait se retourner contre moi parce que Allahu a'lam. Même si j'ai lu des choses, etc., mais pour donner un avis vraiment clair et convaincant, il faut vraiment avoir les tenants et les aboutissants. Donc je dirais simplement qu'on a un calendrier qu'on suit. Chaque personne, il a un calendrier qu'il suit, une mosquée dans laquelle il prie. Bah, suis tout simplement la mosquée dans laquelle tu pries. Si la mosquée, elle suit tels horaires de prière, suis ces horaires de prière-là. Wallahu a'lam. Naam, c'est Mustafa. Il y a autre chose ? On terminera sur celle-là. Doit-on refaire le grand lavage lors d'un rendez-vous gynécologique ? Alors, je confirme, ça n'a absolument rien à voir avec le jeûne de Ramadan. Moi, je pensais qu'elle était globale, mais quand même dans le jeûne de Ramadan. Ala kulli hal, ma'lish, cette fois, on va faire une fleur, on va y répondre, mais les prochaines fois, il faut que les questions ne concernent que le jeûne du mois de Ramadan, même si elles ne concernent pas forcément le terme abordé ce jour-là. Il n'y a pas de... Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par rendez-vous gynécologique ? Quels actes vont être pratiqués ? Si c'est juste un examen d'observation, etc., et qu'il n'y a pas de manipulation ni aucun acte spécifique qui est pratiqué, il n'y a pas d'obligation de refaire le lavage. Par contre, s'il y a un acte plus précis qui est pratiqué, où la gynécologue doit aller vérifier pas de pudeur quand il s'agit de répondre à des questions religieuses, qu'il doit aller vérifier à l'intérieur de la femme, c'est le seul mot que je trouve pour le dire, et bien à ce moment-là, il est mieux de refaire le ghusl, le wudu, le janaba, les grandes ablutions, le lavage. À ce moment-là, il est mieux de la refaire, même si les savants ils ont divergé sur cette question. Barakallahu fikoum pour votre attention. Donc on se revoit mardi et on continuera sur les questions-réponses du jeûne, mais sur un thème différent. Normalement, mardi prochain, on va aborder les permissions de ne pas jeûner. Elles concernent qui et à quel moment il faut rattraper ou payer pour chaque jour non jeûné. Et aussi tout ce qui est l'interdiction de jeûner, comme pour les femmes qui sont en état de menstrue. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين